Point de presse donc à 11h ce matin du ministre Christian Dubé, de la sous-ministre Mme O'Patterney, pour nous expliquer ce qu'on appelle les fameux plans de contingence. Je rappelle, vendredi, entrée en vigueur du décret et des milliers de personnes non vaccinées adéquatement vont quitter sans solde pour une période X le réseau de la santé. En Estrie, pour le CIUS, c'est 800 employés. C'est très large. On parle beaucoup des hôpitaux, mais il y a tous les services sociaux également qui sont offerts. Et je comprends que le sommet va donner le point de presse à 11 heures, mais c'est important d'aller voir terrain, comment se déclinent ces mesures, puis de quelle façon ça touche directement le patient, puis également les employés qui vont continuer à travailler. Je fais le point avec Dr Benoît Eppel, qui est chef du département de médecine générale au CIUS de l'Estrie. Dr Eppel, bonjour.
Bonjour, bon matin, M. Arcan.
Une question bien simple, là. Avec les mesures qui entrent en vigueur vendredi, c'est clair, clair, clair qu'il y a un impact pour le patient, là.
C'est évident. On ne peut pas, dans un réseau qui était déjà un peu fragile avant la COVID, qui s'est, comme vous le savez, fragilisé avec la COVID, si on enlève des milliers de membres du personnel vendredi, il faut manquer de lucidité pour croire qu'il n'y aura pas d'impact, là. C'est évident.
Donnez-moi des exemples de ce que ça veut dire, par exemple, sur le territoire d'un CIUS, les fameux corridors, le fait de prendre un patient, de l'envoyer ailleurs. Comment ça va se passer de terrain, là?
C'est sûr que je ne veux pas rentrer avec vous, M. Arcan, dans les détails des plans de contingence. Je ne veux pas me substituer au CIUS de Tricius ou aux autres établissements qui auront l'occasion d'annoncer leur plan. Je pense que les plans de communication vont se déployer aujourd'hui, demain, vendredi. Même chose pour le ministère. Mais une chose est certaine, évidemment, je vois ça de près. Je les vois de près, les plans de contingence, depuis quelques semaines, on le travaille. Il y aura, comme vous le savez, puis ça sera, on va laisser les CIUS se prononcer sur les fermetures de lits en termes de quantité, mais il y aura nécessairement des fermetures de lits. Qu'est-ce que ça veut dire des fermetures de lits? On ne pourra pas couper les gens qui ont besoin de soins aigus. Là où on peut le plus couper sur l'entrée dans un lit d'hôpital, c'est sur l'électif, c'est sur le patient qui a une chirurgie prévue. Donc, il y aura nécessairement des bris de chirurgie, pas des bris, mais il y aura des retards, des arrêts de certaines chirurgies dans le but de sauver les lits qu'on a décidé de fermer à cause du manque de personnel. Donc ça, c'est un des impacts. Il faut savoir, M. Arcan, que les gens non vaccinés, on parle souvent des... Bon, le Collège des médecins s'est prononcé pour les médecins, il y en a quelques-uns, l'Ordre des infirmières pour les infirmières, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes, les travailleurs sociaux, d'autres types de professionnels, des gens, des techniciens de labo au prélèvement, des techniciens en service de nutrition, service alimentaire. Donc, tout ça, ce sont des secteurs où on peut voir effectivement qu'il y aura un impact sur le patient d'une façon ou d'une autre.
Quand vous dites un impact, là, c'est l'accès ou la qualité des soins?
Si je me permets, à ce stade-ci, sur l'accès, ça c'est certain. On ne peut pas couper 15 000 personnes dans le réseau sans qu'il y ait un impact sur l'accès. Et la crainte que j'ai, et là je parle en mon nom, là, la crainte que j'ai sur ce qui va se passer avec l'application du décret, c'est effectivement une atteinte sur la qualité, voire même la sécurité dans certains cas.
Si je vous donne un exemple, dites-moi si ça tombe sous le sens. J'ai un auditeur qui m'écrit, qui est un citoyen de Belœil, qui se fait traiter par son médecin spécialiste à Saint-Hyacinthe, et avec les mesures qui s'en viennent, on l'envoie passer un test à Sherbrooke. C'est une exception, une anecdote, ou on risque de voir ça?
Bien, je pense que c'est le peut-être le moins pire des mals, dans le sens où ce citoyen a accès à son service, mais malheureusement à 200 km de chez lui, c'est pas l'idéal, mais au moins il y a le service. Mais c'est certain que pour réussir à maintenir un certain niveau d'offre, à maintenir un certain niveau de qualité en termes de délai aussi sur l'accès des examens, par exemple, dans le cas que vous donnez, il va falloir, et c'est ce que le réseau fait depuis plusieurs semaines, se réorganiser, et puis les réorganisations peuvent effectivement amener des déplacements de personnes. C'est un exemple que vous donnez, je pense, je ne sais pas si c'est anecdotique, ça c'était pas nécessairement dans nos plans de déplacer, on a déjà, nous, un très grand territoire, mais effectivement, il est possible que des patients qui aient besoin d'un lit dans un centre hospitalier soient dirigés dans une autre région, ça s'est vu. Mais à tout le moins, au moins, ces patients-là, ce monsieur-là de Belœil a eu son examen.
Alors, la réorganisation. OK. Alors que d'autres, par contre, vont se retrouver en attente, par exemple, pour une chirurgie, que des patients... Dans le fond, ce que vous me dites, là, c'est que des patients aigus, là, puis on peut prendre des exemples de patients COVID, des gens non vaccinés qui vont occuper des lits, même jusqu'aux soins intensifs, ben ça prend du personnel, ce qui veut dire que d'autres patients vont se mettre sur la ligne de côté, là.
Ben, c'est évident, ben, c'est ce qu'on fait depuis plus d'un an et demi. Évidemment, quand on a eu les fortes vagues au début, ben évidemment, le réseau s'est mis un peu sur pause. On savait que c'était une période temporaire. On avait un gros achalandage de patients COVID qui occupaient des lits. On n'avait pas de vaccination à ce moment-là. Nécessairement, on a dû délester des activités. Je pense que ça a bien été diffusé dans les médias, le délestage des activités dans certains secteurs. Actuellement, ben, on va revivre d'une certaine façon un certain délestage, mais cette fois-ci, non pas par une arrivée massive de patients COVID, mais par un certain départ, suspension sans solde de personnels qui ont refusé la vaccination malgré les avertissements qui étaient bien clairs.
Il y avait des problèmes avant, là, c'est clair, mais là, ce sont des gens qui refusent d'être vaccinés. Vous pensez quoi du personnel qui refuse la vaccination?
Là, vous parlez, M. Arcan, un convaincu. Le 24 décembre dernier, moi, je recevais ma première dose. Quand les lignes ont ouvert, j'ai passé 2 heures sur la ligne pour avoir mon rendez-vous. Je suis convaincu. La seule façon, puis ça, c'est important dans le message que je vous passe, la seule façon que l'on se sorte de cette pandémie, c'est la vaccination, que l'on soit le commun des mortels ou qu'on soit un travailleur de la santé. Maintenant, je pense que les travailleurs de la santé ont en plus vu depuis un an et demi ce qui se passe, la conséquence de ça dans nos hôpitaux, la réorganisation que ça a nécessité et toutes les complications qu'on a vécues. Je pense que c'est tout à fait légitime de demander au personnel de la santé d'être vacciné. Je pense que c'est un effort personnel qui m'apparaît très léger, mais c'est un geste collectif, c'est un geste de solidarité. Maintenant, les gens ont eu le délai pour le faire. Ils ont eu les avertissements pour le faire, ils étaient au courant des conséquences. Donc moi, la décision du ministre d'obliger la vaccination obligatoire, je pense que ça prenait un certain courage politique, il fallait le faire. De maintenir la date du 15 octobre comme ultimatum, moi je pense que c'est aussi la chose qu'il faut faire. Qu'est-ce que je pense des gens qui ne l'ont pas fait? Là, on est encore zen, vous et moi, j'embarquerai pas dans les arguments, là, mais à mon avis, c'est une responsabilité qu'on a, non pas pour soi, mais pour la collectivité. Et d'autant plus quand on travaille...
Mais c'est un geste égoïste, c'est-à-dire que de la minute où tu refuses, t'es travailleur de la santé, tu sais que... D'abord, t'as vu les cas COVID dans beaucoup de situations. Un. Deux, le fait de quitter, t'es capable de mesurer l'impact sur ceux et celles qui vont rester. Ça s'appelle un peu d'égoïsme, non?
Je suis pas dans leur tête, mais une chose est certaine, ma sortie aussi... C'est pour faire réaliser. Je pense pas que l'enjeu de ce qui va se passer le 15 est bien connu. Et oui, je pense que la population doit être avisée, puis elle le sera avec les annonces ministérielles probablement ou avec l'annonce des CIS et des CIUS. Mais je pense que les gens qui ne sont pas vaccinés doivent entendre ce qui s'en vient vendredi et doivent comprendre qu'ils sont une partie de la solution s'ils souhaitent se faire vacciner et s'ils vont de l'avant. C'est un geste simple et qui permettrait qu'on aille de l'avant. Qu'on sauve nos services.
Docteur Eppel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.
C'est un grand plaisir.
Au revoir. Docteur Benoît Eppel est le chef du département de médecine générale d'ICIUS de l'Estrie. Et, tu sais, comme on dit dans la chaîne de commandement, ça part d'en haut, ça descend à l'étape intermédiaire, puis je saute des étages, et là, ça arrive sur le terrain. Puis t'as beau dire, excusez, là, c'est parce que ça marchera pas ou ça peut pas se faire ou ça arrivera pas. Puis la personne au-dessus de toi te croit, mais elle a quelqu'un au-dessus d'elle, puis on est dans la commande puis l'exécution, d'une part. Puis je sais, on reçoit des courriels de bêtises pour des gens qui ne sont pas vaccinés, qui vont me sortir toutes sortes de raisons. Mais quand, dans une situation comme celle-là, tu décides de ne pas te faire vacciner, puis que ton syndicat va te défendre en passant, puis que tu sacs ton camp chez vous sans solde, puis que tu laisses dans le trouble les gens avec qui tu travailles, j'ai pas d'autre mot que d'appeler ça de l'égoïsme. Je parle même pas, là, de la responsabilité sociale de se faire vacciner. Un, pour se protéger, puis pour mieux protéger globalement, puis on va se le dire, on a un niveau de vaccination, je le répète souvent, mais c'est important, spectaculaire au Québec pour ce qui est des deux doses. Puis je vois que les ados, ça vaccine en masse. Savez-vous pourquoi? ils veulent avoir des activités, ils veulent pouvoir sortir, ils veulent pouvoir voyager. Et je pense sérieusement que c'est un devoir civique de se faire vacciner. Surtout, mais surtout, quand on travaille dans le réseau de la santé. Puis le jour que vous allez soit attendre, puis on parle de l'accès puis de la qualité des services, parce que des gens ne veulent pas se faire vacciner, puis il ne dit pas qu'il n'y a pas de problème avant, puis qu'il n'y en aura pas après, puis le temps supplémentaire obligatoire. C'est clair. S'entends-tu que tu ne peux pas voir partir des milliers de personnes sans croire une seconde qu'il n'y aura pas un effet direct sur le patient. 7h37.